bonjour à vous et c'est un plaisir comme toujours de vous retrouver aux Imaginales pour découvrir de nouveaux auteurs puisque ce café littéraire se déroule autour d'écrivains qui viennent de sortir plus ou moins et plutôt plus dans la plupart des cas leur premier roman. On vous annonçait 4 auteurs, au final ils sont 4, mais c'est pas les mêmes, totalement. Alors vous avez Loïc Henry, qui lui était annoncé sur le programme, qui est fidèle au poste, et on le remercie. Et il est présent pour un roman qui s'appelle Loire. Il a écrit quelques nouvelles, y compris dans des petites revues assez confidentielles, dans une revue de science-fiction australienne, si ma mémoire est bonne. Ce qui est toujours bon signe, parce que quand on publie, un Français publie un texte dans une revue britannique, australienne ou américaine, généralement, c'est un bon signe. Je rappelle qu'il faut éteindre ses mobiles. Et que le professionnalisme de l'écrivain, c'est entre autres d'éteindre son mobile et au même moment, la modératrice qui donne des leçons à tout le monde vérifie si le sien est bien éteint. Et évidemment, il n'a pas sonné, ce qui lui permet de mentir au public. Il lui a dit qu'il est déjà éteint. En grande professionnelle que je suis. Bien, plus sérieusement, Loire, c'est une découverte. Petite maison d'édition, ce qui ne veut pas dire mauvaise maison d'édition. Griffe d'encre, qui fait toujours des textes de qualité, qui ne publie pas d'habitude de space opéra, sauf que quand ils ont reçu celui-là, ils ont fait une exception, ce qui est toujours bon signe. Et ils ont donc publié ce premier pavé, j'ai lu le roman, de space opéra qui s'appelle Loire. On lira un premier extrait tout à l'heure et on plongera dans cet univers de pure science-fiction, pure aventure, mais qui n'est pas technologique. C'est pour rassurer ceux que les grandes descriptions scientifiques peuvent énerver. Là, on est vraiment dans le roman d'aventure, mais puis ça se passe dans un futur lointain, avec un certain nombre de dirigeants de sociétés futures. Et puis, parmi nous, Marie Pavlenko, qui donc a sorti le livre de Saskia, 2 volumes déjà parus, c'est une trilogie,
oui,
c'est bien
trilogie.
Ça. Voilà. Le troisième sort quand? Le micro, c'est mieux.
Ça marche, ouais. Mai 2013, j'y arrive.
D'accord, très bien. Donc déjà, les 2 premiers volumes pour rentrer dans la série. On va dire roman pour adolescent, mais agréable à lire pour un adulte.
Young adult, comme on dit.
Oui, voilà. Ouais, c'est ce que peut lire aussi bien un lycéen que un adulte, pas vraiment devenu adulte comme moi. J'ai commencé à apprécier le premier que j'ai commencé à entamer il y a quelques semaines, juste avant de vous avoir à cette table ronde. Et puis, Nadia Coste, qui très gentiment accepte au pied levé de nous rejoindre. On avait donc prévu Elie et Seriam, une série jeunesse que j'aime beaucoup. Malheureusement, Elie et Seriam était confronté à une situation familiale de santé dans sa famille grave, et donc elle est obligée au dernier moment d'annuler. On en est désolé, ce n'est que partie remise. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'elle sera présente l'année prochaine à ce festival, parce que c'est un auteur intéressant. Et puis, là aussi, pour remplacer notre ami Frédéric Petitjean, qui devait être aussi présent sur cette table ronde. Frédéric Petitjean n'a pas écouté nos conseils et pris le train, mais est venu en voiture. Et donc, il est en retard, il est pris dans les embouteillages. Peut-être qu'il nous rejoindra en cours de café littéraire. On lui a mis une petite chaise exprès, quand même, pour lui montrer qu'il est légèrement puni pour ne pas s'effleurer à 6 heures. Bien, plus sérieusement, donc, on a aussi, après Nadia Coste, le nouveau roman. Donc, Castelmore, c'est la. On va dire le label de Bragelonne, jeunesse, bord de marge, KPDP pour la jeunesse. Une définition qu'on veut une autre?
C'est un peu plus compliqué que ça.
Déjà, ça commence bien, un premier roman, et déjà c'est compliqué. On va voir que ça ne l'est pas tant, en tout cas, à la lecture.
C'est pas tout à fait KPDP, et il y a une grande partie qui se passe dans le monde réel.
Bien, et bien justement, on va voir ce va-et-vient entre monde réel et monde fictif. J'en viens de l'apporter, et c'est très gentil. Et puis, un premier roman. Alors, là aussi, petite anecdote, parce qu'on va se faire plaisir, et puis après, on va démarrer dans le vif du sujet. Emmanuelle Nunc ne nous est pas inconnue, puisque tout d'abord, elle a fait le speed dating. Vous savez, ce fameux rendez-vous des auteurs rencontre des éditeurs. Plein d'espoir, bien évidemment on ne va pas publier leur roman, on va simplement leur dire qu'ils s'y prennent très mal et on va leur expliquer comment faire pour avoir une chance ne serait-ce que d'être lu Et en général, ça, par contre, on leur apprend des choses. Et ça se passe très bien, et on remercie les éditeurs qui jouent le jeu. Emmanuel a eu un peu plus de chance, peut-être que ses projets étaient un peu meilleurs. En tout cas, les conseils lui ont visiblement été utiles, puisqu'elle a pris les contacts avec certains éditeurs, et entre autres, Rajlon, à cette époque. Visiblement, le contact a été bon, puisque 2 ans après, on voit Bordemarche qui est publié. Et en attendant, parce qu'il faut bien vivre, en attendant qu'on vive de sa plume, eh bien, elle a sévi à la bibliothèque multimédia intercommunale, la BMI d'Épinal. La BMI l'a perdu récemment, mais la littérature l'a gagné. Les deux y ont peut-être gagné, je ne sais pas. Ça s'est passé comment, la bibliothèque ?
Plutôt bien. J'avoue que si vous comptez voir ma vraie expérience dans le bouquin, c'est pas tout à fait ça non plus. Parce qu'il y a une bibliothécaire au bord de Marche, en fait, et c'est grossièrement voilà. Utilisé certaines de mes expériences.
D'accord. Donc, j'ai bien compris, vous avez écrit votre roman pendant vos heures à la bibliothèque.
Non, quand même pas, non.
Il y a prescription maintenant. On fera courir la légende et vous verrez, on reprendra la bibliothèque où elle travaillait en cachette son manuscrit. Je suis sûr qu'après, vous n'y serez pas. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Le mieux, c'est toujours de lire un petit extrait. On va peut-être démarrer par le space opéra d'Oïc Henry, premier roman. On se refuse rien, combien il fait ? Presque 622, 626, 136 pages, c'est précis. Donc, voilà, mais on ne s'ennuie pas une seconde. On y va. Chulune, le latar qui commandait les armées de Loire depuis maintenant plus de 15 ans, cachait mal son impatience. Ses yeux en amande, noirs et profonds, fixaient la porte en chêne que franchirait d'ici peu Blight, le spoil du royaume. Son visage, entouré de longues mèches brunes qui assombrissaient encore un peu plus son regard, paraissait pourtant serein. Son expérience et sa fidélité me seront des plus précieuses dans cette crise, pensa soudain Emerald. Chulune et Blaise, mes deux soutiens les plus cruciaux dans cette lutte pour la survie du royaume, un mercenaire étranger et un spol, quelle ironie. Mais la situation est similaire pour les autres royaumes, eux aussi dépendent des latars et des spols. Assise à ses côtés, Aour, la première maître d'armes de Loire, parcourait distraitement les derniers rapports sur les déplacements de troupes de Mélène. Aucun lien n'entravait sa chevelure ambrée, qui encadrait un visage ciselé avant de retomber en pluie sur ses épaules. Blaise apparut soudain dans l'embrasure de la porte de la salle du conseil. Il les salua d'un bref hochement de tête, puis s'affala sur le fauteuil situé en face de Chulune. Le spol avait négligé de se couvrir, malgré les rigueurs de l'hiver d'Aven, la capitale de Loire. En dépit de sa frêle constitution et de la pâleur de ses lèvres, Emerald savait que le spoil ne souffrait pas de l'agression du froid. Blaise semblait se trouver ailleurs, tel un adolescent égaré, dans un rêve intérieur. « La situation t'amuse, n'est-ce pas ?» cracha Chulune en fusillant le spoil du regard. « Oui, elle brise quelque peu la routine. » Élégante façon de définir la plus grasse crise depuis la guerre des royaumes, songea Emerald. Les rapports de force ont évolué depuis ce matin, observa Aour. Les planètes Main et Cloche se sont ralliées aux côtés de Mélène, poursuivit Blaise. Comment le sait, commença Aour. Leur spoil ne pouvait que leur conseiller cette solution, interrompit Blaise. Et cela signifie que l'influence d'Abshorn s'étend dorénavant depuis son royaume de Mélène jusqu'à la frontière de la zone inféodée à Kreis, la planète sainte. Comment réagissent les prêtres de Kreis, demanda Emerald. Ils persistent à s'abriter derrière leur supposée neutralité, répondit Aour, comme si les conquêtes territoriales et les intrigues politiques ne les concernaient pas. Asbjorn les ménage, une crise religieuse dans son royaume compliquerait ses plans, du moins pour l'instant. Ils espèrent aussi que leur soutien à Mélène les protégera, songea Emerald. L'ultimatum que nous avons reçu hier ne nous laisse que peu de liberté. Nous soumettre ou périr. La nouvelle arme semble imparable et Loire serait anéantie sans que nous puissions réagir. En cas de refus global, Abshorn ne pourrait détruire toutes les planètes de la région, objecta Aour. Mais Loire servirait sans doute d'exemple, répliqua Emerald. Le régent conserve toujours en mémoire le douloureux souvenir de ses défaites. Il pense peut-être que la destruction d'Aven le délivrera de ses vieux fantômes. Les autres royaumes n'ont pas encore réagi, j'imagine. Ils attendent notre impulsion, admis Aour, comme au temps de ton père. La menace n'est pas si mortelle, pensa Emerald. Nous aurions dû en finir à cette époque, au lieu de nous contenter d'une trêve qui ne représentait qu'un simple sursis. Leur richesse naturelle leur ont permis de se relever plus rapidement que nous, et aujourd'hui ils savourent leur revanche. Nos chances de succès, en cas d'attaque surprise sur Mélène, faibles, répondit Chulune. Il faudrait transiter par des royaumes alliés à Djorn, et nous serions de toute façon exposés à leur nouvelle arme lors de leur riposte. Pensez-vous que nous puissions rallumer des querelles internes au sein des alliés de Mélène, sans qui émeraude ?» Le Spol secoua la tête. Leur opulence les aveuglait par le passé, mais Abjorn a réussi à les vassaliser. Par la force, la traîtrise, l'assassinat, le complot et la menace de leur nouvelle arme, explosa Our. Oui, dit Blaise. Et alors ? Voilà. On est dans une salle du royaume, hein, principale, celui dirigé par le jeune Emerald. Un garçon, on va voir, face à une crise considérable, le roi de ce royaume. Et il est entouré de ses conseillers. Ils font le point sur la situation. Et ça marche très bien. Vous avez bien vu ce dialogue. On écoute, ils répondent, ils discutent. Ils sont en situation de crise. C'est l'état-major, il le conseille, le dirigeant va devoir prendre des décisions, il a en gros une semaine, 8 jours, je ne sais plus, pour réagir avant que sa planète soit annihilée par une arme secrète dont on ne connaît pas tous les éléments et qu'on ne maîtrise pas et dont ce régime n'a visiblement pas les moyens de se protéger, en tout cas il le pense au début du roman. Voilà la situation posée par Loar, c'est donc un monde galactique. Des planètes et des régimes en opposition, la guerre qui menace, vous voyez qu'en quelques pages, avec la technique d'un grand professionnel, Loïc Henry nous plonge, toutes les informations essentielles nous sont données, on sait déjà que la guerre menace, qu'il y a des conflits, des assassinats, des trahisons, et que l'enjeu, c'est la survie, non seulement du responsable, mais de toute sa population, puisque l'enjeu, c'est celui de la capitulation, de l'annihilation. Loïc Henry, qu'est-ce qui vous a donné envie, dès ce premier roman, de vous plonger dans un space opéra ambitieux tel que Loar, à l'égal des maîtres américains que nous révérons tous et toutes ?
À l'égal, c'est vraiment trop gentil, mais disons que l'idée, c'est que moi, je pense que comme beaucoup d'auteurs, en fait, moi, j'ai essayé d'écrire ce que j'aime lire. Donc, ce que j'aime lire, c'est les histoires qui sont plutôt complexes, qui ne sont pas vraiment des histoires linéaires. Qui sont plutôt des histoires où en fait il faut un peu imaginer l'image d'une plante, c'est-à-dire une plante qui commence à croître avec des branches qui se séparent, avec des branches qui se recroisent, d'autres plantes qui s'intègrent à celle-ci, qui créent des pousses, des fleurs, des fruits, ainsi de suite, et on arrive ensuite à un enchevêtrement pour à la fin du roman essayer de recombiner un petit peu tout ça. Il y a des fausses pistes, des vraies pistes. L'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre le lecteur un peu par surprise au moment où on a un peu l'impression que l'histoire se pose, et c'est essayer de faire un petit peu des fausses alertes à ce moment-là. Alors c'est en effet un roman qui se déroule sur plusieurs planètes, donc les liens entre ces planètes sont intégrés au fil du roman, ce qui permet à la fois d'avoir, alors la trame principale c'est en effet la trame d'un conflit, mais je dirais pas que c'est un prétexte exagéré, mais donc c'est un élément qui permet justement de mettre en avant, premièrement, le suspense, l'histoire, les relations qu'on peut avoir entre les différents personnages. Maintenant, en termes d'inspiration, alors l'inspiration, elle est un peu particulière sur ce roman, c'est-à-dire que je fais un voyage solitaire en Écosse il y a de ça un bon bout de temps maintenant, et donc j'étais dans des paysages incroyables, magnifiques, et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'histoire, les personnages, les liens, j'ai même la chute, et le fil de l'histoire me sont, on va dire, apparus jour après jour. Et donc j'ai attendu assez longtemps avant de retranscrire. J'ai vraiment attendu d'avoir quasiment toute l'histoire dans la tête pour essayer vraiment de la coucher sur papier. C'est-à-dire que j'ai pas le talent de certains qui réussissent à démarrer une histoire sans vraiment savoir où ils vont aller à la fin. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir cette histoire complètement en tête avant de démarrer, donc ça m'a pris énormément de temps. Et puis une fois que j'avais ça d'une manière à peu près construite, enfin au moins pour moi, grâce à ce point de départ qui encore une fois était ce voyage en Écosse, j'ai essayé de me lancer à l'eau.
Pourquoi vous avez choisi, dans toutes les possibilités de l'imaginaire, du spécial, la science-fiction ? Pourquoi pas de la fantasy ? Pourquoi pas de la biblique ? Pourquoi pas du fantastique ? Qu'est-ce qui fait, alors que ce n'est pas nécessairement, sauf, heureusement, j'espère que ce sera le cas de Loar, quelques livres, on se croit, c'est Frédéric qui nous rejoint. On avait déjà expliqué que, au lieu de prendre le train, selon les bons conseils des festivals, il est venu en voiture, voilà, le résultat. Asseyez-vous,
Frédéric.
Donc, ma question, c'était, pourquoi vraiment ce goût pour la science-fiction ?
Voilà. Là, c'est très égoïste, en fait. C'est-à-dire que moi, j'écris ce que j'aime lire. Et ce que j'aime lire, en fait, c'est essentiellement de la science-fiction pour les littératures d'imaginaire et principalement le space-opéra. C'est-à-dire que moi, les grands auteurs qui m'ont fait vibrer quand j'étais un petit peu plus jeune, c'est Frank Herbert, c'est Isaac Asimov. Et si on remonte encore un petit peu dans le temps, littérature jeunesse, on a quelqu'un alors qui n'est pas forcément tellement connu dans le milieu science-fiction, mais qui est en fait la première personne qui m'a ouvert la porte vers ce type de littérature, c'est un auteur qui s'appelle Philippe Eblis, qui a écrit beaucoup de livres pour jeunesse à l'époque en bibliothèque verte, en science-fiction. Et c'est vraiment les thèmes qui m'intéressaient plus que la fantasy, la vitlite ou le fantastique.
Marie Pavlenko, le livre de Saskia, premier volume, Le Réveil, là aussi, histoire de se plonger un petit peu dans l'ouvrage, un petit extrait. J'étais en train de laisser errer mon regard sur les tombes avoisinantes quand j'aperçus deux silhouettes sur ma gauche. Perchés sur un banc, deux garçons fumaient. Je plissais les yeux et identifiais avec effroi deux abrutis du coup de tête, Jean-Charles et Stanislas. Ils me reconnurent eux aussi, et sautèrent d'un bond sur le gravier. Une sueur froide trempa mon dos. J'entendis des éclats de voix. Ils se parlaient fort, dans un débit accéléré. Je les vis se diriger vers moi, d'un pas décidé. Sans demander mon reste, je pivotais sur la droite, et le cœur battant accélérait mon rythme. C'était bien ma veine, le cimetière était désert. Et j'avais compris que ces deux-là n'attendaient qu'un moment opportun pour m'humilier comme ils l'avaient été. Soudain, je grimaçais. Ma pierre était devenue gelée. Gelée à me brûler, comme dans mon rêve, pensais-je effaré. L'adrénaline déferla dans mon corps, mue par un instinct bestial, je recroquevillais aux aguets, je restais ainsi immobile, tendu, suspendu. Que venait-il de se passer? C'est à cet instant que je l'aperçus. Elle était perchée sur le toit d'un caveau, debout, juste au-dessus de moi. Sa longue chevelure dorée volait dans le vent. Elle était vêtue d'une combinaison noire qui moulait son corps élancé. Dans sa main brillait une épée longue et fine. Malgré le ciel gris, le tranchant scintillait. Elle me regarda d'un air de haine absolue et sans prévenir, plongea sur moi. Ça démarre très fort, hein, parce qu'au départ, pour préciser les choses, votre héroïne... Bon, une lycéenne, comme on en trouve d'autres, qui soucie, elle va bien avoir un petit problème d'agression dans le transport en commun, malheureusement, chose qui arrive quelquefois. Quelques garçons un peu ivres, un peu machistes, un peu agresseurs, qui veulent passer leur nerf sur une jeune fille. Un fier héros va intervenir, qu'elle va retrouver bizarrement, qui semble être plus ou moins son protecteur, ou un dragueur, on ne sait pas trop. Puis il se passe de plus en plus de choses bizarres dans le monde réaliste et réel de cette jeune fille. Et là, visiblement, ça commence à tourner mal, une épée.
Ça dérape.
Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la fantaisie, Marie Pavlenko?
Oh non, pourquoi? Ben oui, c'était l'idée d'ancrer en fait une histoire dans le monde contemporain d'aujourd'hui, que chaque lectrice, puisque j'ai plutôt pensé à des lectrices, pourrait reconnaître extrêmement, voilà, qu'il soit familier. Mais je voulais y introduire la dimension fantastique d'un univers qui serait dans le nôtre et dont on n'aurait pas connaissance. Voilà, c'était l'idée de départ.
Oui, la fantaisie, elle prend plusieurs façons de se poser et on va peut-être découvrir celle de Frédéric Petitjean. Je vois que je me... mon besoin de micro, j'en ai deux. Pardon.
C'est bien.
Oh, c'est quand même, faites un café, l'organiser, très contente de vous. Quatre auteurs, quatre découvertes, vous avez mis les livres, faites même un papier dans le supplément. Il y en a deux, un qui arrive en retard et une qui n'est pas là. Alors évidemment, on peut être légèrement troublé, mais celui qui est en retard, on l'a déjà oublié. Justement, on ne lui en veut pas, parce que le livre est très bon. Je précise quand même que les imaginales ont parfois un regard assez pertinent, je crois, sur les livres, puisque on avait repéré... Les Dolls, le premier volume, La route des magiciens de Frédéric Petitjean, parmi quelques livres, dont Loire qui nous avait beaucoup plu. Et il vient d'obtenir il y a quelques jours le Grand Prix de l'Imaginaire en collection jeunesse.
Absolument.
Pour un premier roman, c'est pas mal quand même.
Oui, j'ai de la chance, je suis un peu honteux d'ailleurs. Mais... non, c'est bien.
C'est pour ça, évidemment, quand on vient d'avoir pour un premier roman, un prix comme ça, on arrive en retard.
Oui, oui, sur le périph', ils sont divisés, il y a le prix, il faut mettre en retard.
Bon, vous avez vu que Frédéric est à l'aise, et c'est pour ça que je le taquine un peu. Quand on voit les auteurs angoissés, ça existe, je ne permettrai évidemment pas.
C'est pour ça que je prends plus le train que les auteurs, parce que c'est l'enfer.
Voilà, absolument, on ne peut même pas faire ses effets. Alors, on va voir que... on est dans la fantaisie, une fantaisie urbaine, on va dire.
Oui, exactement.
C'est un autre univers, hein. Pas du tout, d'abord plus jeunesse.
J'ai tout copié sur elle, j'ai changé deux, trois mots.
Pas tout à fait quand même, on va voir. Une sirène d'alarme se mit à ululer dans les étages. Note claire surnageant dans l'océan sonore généré par la cloche. Antonius en fit abstraction pour traquer de toutes ses forces la cohérence des propos de l'aïeul. Il savait que seule ma mère était au courant. Une effrayante transformation s'opéra chez Melcardillon. Ses souvenirs se foncèrent d'un coup, les veines de ses avant-bras se gonflèrent, les rides qui dessinaient son visage se déformèrent d'une à une. Il parut grandi et même gigantesque à Antonius, qui n'était pourtant pas de taille médiocre. Les cloches n'en finissaient pas de brasser l'air. La confusion gagnait toutes les salles, les moindres objets tremblaient sur leur socle avec des trémulations audibles, du plus grave au plus aigu. Les cartels s'affichaient en berne. Tout ce qui pouvait produire un son teinté ou grondé au rythme dantesque de la démentielle cloche phénicienne. Ben, ça commence très très fort, on est dans un musée.
Oui, métropolitaine d'ailleurs.
Voilà, ben, on s'en refuse rien, c'est ça la romanesque. Hein.
J'ai habité là-bas longtemps.
Les gros budgets tout de suite. C'est ça qui est bien dans le roman, on peut se permettre tout de suite de faire des effets spéciaux.
C'est un roman hyper cher.
Pas faux adapté. Jeune métropolitaine, ça va être loué cher. Donc on voit bien le grand-père, une famille. Un des personnages aussi, d'autres personnages intéressants, c'est une jeune fille de la famille, qui au départ a l'air d'être une famille plus ou moins comme les autres, mais on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai, assez vite. Et là, on découvre les pouvoirs de cette famille. Seul petit souci, c'est que quand on est une famille pourchassée par des ennemis mystérieux, on va voir au fur et à mesure quels sont ces ennemis, c'est pas une très bonne idée que d'attirer l'attention en faisant un scandale gigantesque aux métropolitaines qui va affoler tous les médias, se demander qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et évidemment, les ennemis, enfin heureux, vont retrouver la piste.
En fait, les Dolce, c'est d'abord l'histoire de la dernière famille de magiciens au monde. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de dragon. Ils n'ont pratiquement pas de pouvoir. En fait, ils sont complètement dépassés par la technologie. Ils sont même assez ringards par rapport à ça. Et c'est des gens qui ont juste deux petites différences avec nous. La première, c'est que ils utilisent, comme vous, à votre naissance, et malheureusement pour nous, ça mémise fortement 100% de leur cerveau. Ça dure pour nous 6-7 heures, c'est toute leur vie. Et les 60% d'eau dont on est constitué, pour eux, retiennent la totalité des molécules de la faune et de la flore que la Terre n'a jamais portée. Donc ils sont la dernière chance pour l'humanité, enfin pour l'environnement de la planète, de s'en sortir. Et comme ils utilisent mieux leur cerveau que nous, ils vieillissent moins vite, ils ont un rapport au corps qui est vraiment sublime. Ils peuvent parler à chacun des membres de leur corps, des choses comme ça, transférer des masses, donc, plein d'éléments qu'ils peuvent faire qui sont complètement naturels. Ils peuvent vraiment pas agir sur le monde, et la seule petite puissance qu'ils ont, c'est sur les matières naturelles, qui est extrêmement rare à New York.
Donc on voit déjà pour un premier roman de Vendée, c'est quand même une vraie idée originale.
Alors d'abord, c'était un scénario, j'étais scénariste chez DreamWorks pendant 10 ans. C'était un scénario pour le cinéma, et c'est l'éditrice, c'est pour ça que j'adore l'aventure qui est arrivée, parce que c'est l'éditrice qui est venue, qui a eu la bible du scénario aux États-Unis, qui est venue de Paris, Los Angeles, pour demander d'en faire un livre, pour une trilogie. Et c'est une petite tractation qui a duré un an, parce que c'était un vrai travail, j'ai pas envie de travailler, donc voilà, et en fait c'est elle qui a gagné, je regrette pas.
Ah oui, quand même, être publié dans un nouveau label, hein. C'est quand même du groupe qui a...
Oui, Don Quichotte qui fait partie du Seuil, c'est vraiment une collection à l'intérieur qui est indépendante, elle sort entre 12 et 18 livres par an, et elle essaie d'être assez drastique, et c'est la première fois qu'elle se lance dans la littérature ado jeunesse. Voilà.
Ce qui est frappant, c'est que donc, un des livres sortis par ce nouveau label, c'est le vôtre, qui vient d'avoir le Grand Prix d'Imaginaire, qui a été repéré par les Imaginales, puisque vous avez été donc invité au festival, et qu'en plus on a mis un coup d'éclairage sur votre livre parmi 4 livres qu'on avait, 4 premiers romans qu'on avait tout particulièrement remarqués, et un de vos collègues Lionel Davous, publié dans la même collection. Lui est le coup de cœur. Et il était d'ailleurs aussi, il avait été remarqué aussi par le jury, puisqu'il avait été nominé. Voilà. Donc.
Pour les attentes.
Maison d'édition, un label en tout cas intéressant, Don Quichotte.
Oui, super. Stéphane Chevrier, une vraie tyran. Super belle, donc ça passe. Donc voilà.
Bien. On va partir maintenant bord de marge. On va partir du côté de Castelmore, la belle jeunesse de Bragelonne. Et puis, là aussi, un livre qui nous a plu, Emmanuel Nunc. La bibliothécaire, ah oui. La bibliothécaire posa sa pile de livres sur le bureau pour raccrocher le tableau au mur et repartit sans se poser de questions sur l'absence de Violette. Elle n'avait pas remarqué non plus qu'au lieu de Marius Lessieux, on voyait maintenant sur le tableau le visage tout balafré de Mortier Moisy, un rustre barbu, portant des lunettes de cheminot sur un chapeau haute forme élimé et des gants de cuir rouge vif. Ce fut seulement à cet instant que Roxane regarda l'endroit où elle était arrivée. Jusque-là, elle n'avait pensé qu'à fuir son pire ennemi. Le bâtiment était laid, plus froid qu'un cachot. Il n'y avait, en dehors du portrait, aucune moulure, aucune statue, aucun lustre, aucune décoration, ni peinture chaleureuse. Il n'y avait que des livres, des tables, des chaises et de drôles de boîtes grises dont elle ne comprit pas l'usage. Elle ne comprit pas non plus l'intérêt de rassembler autant d'ouvrages dans un même endroit. À bord de marge, les livres n'étaient qu'un élément de décoration comme un autre, et jamais on ne les ouvrait. Et vous avez été bibliothécaire. Je ne vous félicite pas, Emmanuel.
C'est un personnage, c'est un lieu de fiction, donc... toute ressemblance. Donc il fallait que le lieu de départ soit vraiment repoussant pour que mon héroïne Violette trouve quelque chose d'extraordinaire à changer de monde et à passer à travers le tableau pour aller dans le bord de marge. Donc j'ai volontairement exagéré les choses comme repoussoir.
Alors, vous disiez tout à l'heure, au début de notre discussion, que vous avez choisi de vous adresser, on voit déjà au style tout de suite, au nom des héros, vous adressez vraiment jeune. C'est vraiment un public jeune que vous avez ciblé. Pourquoi, premier roman, vous avez décidé de vous adresser à un public jeune, voire même assez jeune, enfin très jeune, je veux dire. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est votre cible, c'est beaucoup plus cible. Ce n'est pas comme ça que vous parlez, je sais bien, mais plutôt les 12-16 ans, quelque chose comme ça.
Je vais vous démentir totalement sur toute la ligne. J'ai écrit l'histoire que je voulais écrire. Après, si ça s'adresse à des enfants, j'ai pas fait exprès.
Elles s'en rendent même pas compte, c'est incroyable, les auteurs.
Je voulais une histoire qui... Bon, il y a quand même une part de conscience dans le fait que je voulais vraiment écrire une histoire que j'aurais aimé lire quand j'avais cet âge-là. Moi, j'étais fan, quand j'étais gamine, d'Alexandre Dumas, de Jules Verne, de Victor Hugo, d'aventures où il se passait plein de choses, enfin, tous les romans feuilletons, c'était ma passion. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui, de l'enfant que j'étais qui se ressent dans mon roman.
D'accord, et bien voilà. Enfin, un roman, c'est pas pour qui ça. Et puis l'éditeur finalement lui repère que c'est un livre pour jeunes. Et voilà comment on démarre une carrière littéraire, c'est incroyable.
Mais je crois que je suis pas la seule. En général, les auteurs écrivent ce qu'ils veulent et c'est ensuite l'éditeur qui fait le travail derrière et qui trouve la cible, le public, qui vous met la petite mention à partir de 12 ans. Voilà.
D'accord,
oui, je suis d'accord. Mais pour le Duchess, c'était pareil, c'était pas du tout ciblé adolescent ou autre. Et d'ailleurs, c'est Leclerc sur les centres culturels, il passe en adulte. Donc c'est vraiment une question de choix, de positionnement. Et je sais pour l'éditrice, c'est une manière de sortir plus de livres avec le seuil, parce qu'il y a plus de ventes possibles en jeunesse. Et donc on voulait faire une édition plus grosse. Donc des fois, ça dépend de plein d'autres critères. Mais c'est vrai qu'on a. Moi, je sais pas vous, mais j'ai pas en tête pour qui je l'écris, en fait.
C'est pas à nous de mettre les étiquettes, quoi.
Ouais, exactement.
Mais déjà, nous, on se limite au départ.
Marie n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non. Marie, prenez le micro, on parle du micro de l'autre.
Alors moi, je pense qu'il y a un élément qui est déterminant. Il y a une part de volonté, par exemple, plus ou moins violent. Moi, je suis en train de travailler sur un autre livre en ce moment. Je sais que ce ne sera pas la même cible. Mais je pense qu'il y a énormément aussi le héros, quoi. Et si le héros, il a 12 ans ou il a 80 ans, forcément, quelque part, ça va induire des choses, induire une façon de réagir au monde dans laquelle un lecteur, il se reconnaîtra plus ou moins. Et je pense que quand on écrit de la jeunesse, on part du principe que c'est un héros en devenir et que... Et qu'il est jeune et que donc ben, il va découvrir des choses. Il y a une forme de découverte qui est vachement. Voilà, qui pour moi est déterminante.
Il y a le cas particulier où ben, je vais parler de moi, mais dans mon roman, ils n'ont pas d'âge, les personnages.
Voilà, là forcément.
Ouais, je suis dans une famille, c'est transgénérationnel. Ouais.
Moi, c'est pareil, c'est transgénérationnel. Un grand-père, deux parents et deux adolescents. Et c'est vraiment partagé sur les seins.
Et ce serait trop facile d'avoir un héros de 10 ans et de dire que c'est pour les 10 ans, un héros de 14 ans, de dire que c'est pour des lecteurs de 14 ans. Ce serait aussi se limiter beaucoup.
Mais c'est vrai que pour la jeunesse, c'est peut-être un petit peu différent. Il y a un process d'identification qui est assez fort. Je pense qu'il est peut-être un peu plus fort pour la jeunesse. Autant, c'est peut-être plus facile d'avoir un livre à destination des adultes avec un héros qui est jeune. Ça, c'est concevable complètement. Autant avoir en effet un livre jeunesse avec un héros qui a, comme vous disiez, 80 ans, ben c'est peut-être un petit peu plus compliqué.
On va voir quelle est la cible d'après toi. Alors, princesse, on tentait de s'enfuir, tonna une voix grave à l'accent russe. Je ne suis pas une princesse, gémit Violette d'une voix nasillarde, les épaules comprimées par les lourdes mains de trois pirates, aussi larges qu'une étagère pleine d'ouvrages de Victor Hugo. Angus Caltourine écarta ses hommes de son passage et s'avança vers la jeune femme qui tentait vainement d'éponger le sang qui coulait de son nez avec le foulard de Roxane. Il tendit une main vers elle pour lui enlever le tissu, mais elle recula brusquement en sentant cette main sur la sienne. C'était une agression pour elle, qui ne supportait pas qu'on la touche. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demanda-t-il d'une façon un peu plus douce. « J'ai le nez cassé !» hurla-t-elle un peu plus réveillée. « Une bande de crétins décérébrés m'est tombée dessus. Je ne suis pas un ballon de rugby. » De quoi ?» Angus secoua la tête, ne comprenant pas le mot. « Nous n'avons plus le temps d'écouter vos enfantillages !» Il claqua les doigts à la ronde. « Embarquez-la, on met le cap sur le château immédiatement, plus de temps à perdre !» Ces hommes firent avancer brutalement Violette devant eux et sortir de l'Athanor en y laissant Simus, Péter et l'Orfèvre, dont ils n'avaient pas besoin. « Il l'a appelée princesse, murmura Péter. Oui, c'est Rose-Louise, Elisabeth, Clara, Marianne, Martiolis de Poésie Bordemarche, duchesse d'Étoiles, héritière du trône de Bordemarche et détentrice de tout un tas d'autres titres tout aussi longs, mais elle préfère qu'on l'appelle Roxane. Alors ?
Oui, bon, c'est sûr que quand vous lisez...
c'est de la littérature pour adultes, vous allez faire ça, Emmanuel.
Mais je suis désolée, même les grands
aiment
les histoires rigolotes.
Ça, évidemment, bien sûr.
Vous voulez bonnes histoires, pas de soucis.
Donc... Ben, même quand c'est des films, même les adultes aiment Peter Pan, même les adultes aiment des choses comme ça, du moment que ça les fait rêver. Et mes personnages humains, parce qu'il y a des personnages humains et des personnages fictionnels, les personnages humains sont relativement vieux.
Comme moi, quel
les deux personnages humains sont définis par leur métier, donc bibliothécaire, et qu'on peut faire ce métier-là de 18 à...
À la retraite. Ouais.
Ouais. C'est le métier de jeune. Non, plus sérieusement, oui, c'est vrai que quand on lit un livre, même si on voit que la cible, c'est pas nous, quelque part, bah, la preuve, ça m'a beaucoup amusé de le lire. Voilà, c'était de bonne humeur, ça se voyait, ça m'amuse, donc je prends plaisir, même si je sais bien que je ne suis pas fondamentalement la cible. Faut quand même dire au public qui est dans cette salle que s'ils veulent s'amuser, oui, en effet, le roman est drôle, plein d'humour, très léger, très agréable, mais évidemment, c'est un roman qui peut plaire à des très jeunes lecteurs, sans hésiter. Et c'est aussi pour eux qu'il faut le recommander, parce que parfois on vient acheter des livres pour nous, adultes, et puis parfois, on veut aussi acheter des livres pour nos enfants, nos nièces, nos neveux, etc. Donc c'est important de le dire à la cible, c'est aussi pour vendre les livres tout à l'heure.
J'ai l'impression qu'on a tendance à estimer que quand un roman est rigolo et qu'il ne prend pas la tête, c'est forcément pour les enfants, et que quand il est sérieux et qu'il parle de l'apocalypse et de la Troisième Guerre mondiale, c'est forcément pour les adultes. Je ne suis pas d'accord, je pense que ça peut intéresser tout le monde, et mon roman n'est pas... ciblé pour les enfants. Bon, après, c'est ma personnalité, je suis comme ça, donc peut-être que...
Eh ben voilà, je défends pas mal sur le roman quand on la pousse un peu, hein, quand même. Ah, j'ai du mal au début. Bien, un roman sympathique et intéressant pour le jeune public. Il ne faut pas hésiter vraiment à découvrir Emmanuel Nouk avec Bord de Marge. Alors, on va continuer un peu notre... Alors, il n'est pas prévu, mais quelque part, c'est une deuxième saison, puisqu'on a découvert, décidément, c'est une manie, Nadia Kos, nous, on l'a découvert, elle a déjà commencé à écrire, elle ne nous a pas attendu au speed dating, mais ça lui a facilité les choses, parce que ça avait commencé comme ça. On en revient, c'est bizarre, nos discussions. Des fois, je suis décousu, puis finalement, on a l'impression que j'ai un fil directeur. J'étais en train de me poser cette question. Quand on vient à speed dating et qu'on rencontre des éditeurs, on arrive avec un roman. Quand on est auteur, on ne sait pas toujours. On ne se pose pas les questions de cible souvent, c'est vrai. Surtout quand on n'est pas encore un écrivain professionnel, qu'on a un premier livre à essayer de proposer, de vendre à un éditeur. Or, vous n'êtes pas sorti avec un contrat, vous n'êtes pas sorti avec un engagement, une promesse, vous n'êtes pas sorti avec l'éditeur qui finalement vous a publié, mais des conseils et des remarques qui vous ont dit « mais c'est normal qu'on ne vous réponde pas aux délais de circulaire parce que vous envoyez votre manuscrit à des maisons adultes, or votre bouquin mais est complètement pour les jeunes. Envoyez-le à des maisons jeunesse.
Ouais. » Moi, ça a été vraiment... quand je l'ai écrit pour moi, en tout cas pour ce que j'avais envie de lire aussi. J'étais pas non plus très avancée en âge dans ma vie, mais j'étais quand même déjà adulte. Donc moi, j'aimais ce genre de livre, donc je pensais que ça se destinait à des adultes. Et effectivement, ce sont des éditeurs du speed dating, 2 sur les 4. Donc quand même déjà 50% des gens qui me disent que de la façon dont je racontais mon histoire, ça pouvait toucher des adolescents, voire être... pour eux d'abord, et que des adultes le lisent, parce qu'après, en profondeur, en plusieurs lectures, selon les niveaux de lecture, il allait toucher les adultes différemment. Mais effectivement, que surtout sur le premier tome, qui est très initiatique, où on suit le héros de sa naissance à son âge adulte, où du coup on suit son évolution, il cherche sa place, l'évolution du corps, il a ses ailes qui poussent, du coup, voilà, on est vraiment sur des thématiques de l'adolescence, dont j'avais pas du tout conscience au moment de l'écriture, parce que pour moi, je suivais vraiment... l'évolution de ce personnage avant de suivre un adolescent ou quelqu'un qui aurait des problématiques d'adolescent. Effectivement, chercher quelle est notre place dans ce monde, ça va tous nous toucher. En l'occurrence, ça touche aussi, ça a une résonance au niveau des adolescents, et c'est pour ça qu'il sort d'abord dans une collection plutôt pour les ados au départ.
Pour situer Fédéline, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore le roman, un tout petit extrait. Je me rapprochais de la mare. L'eau rafraîchissait vite et mes poumons acceptaient avec bonheur de grandes inspirations vivifiantes. Les hautes herbes du bord de l'eau me chatouillaient les jambes. Je détaillais les cailloux enfoncés dans la vase, les touffes d'herbes écrasées, les roseaux, les feuilles mortes, les épines emportées par le vent. Je marchais le long du bord et m'éloignais de la fête comme mes semblables. La lumière du dor déclinait. Seule une araignée d'eau perturbait la surface limpide de la mare. Le reflet des lunes frémit, passage de l'insecte. La fine tranche rousse de l'île et la pleine face décroissante de Nouma la Blanche retrouvèrent leur immobilité. Je m'assis sur des trèfles humides. Des cailloux ternis par la terre entouraient mes pieds. Des brindilles et des algues brunes cachaient d'autres pierres. Le silence et la beauté du lieu m'enveloppèrent. Quelques cercles troublèrent le centre de la mare et je frissonnai en repensant aux poissons qui dévoraient mes congénères. Je me trouvai près de la zone de bain. D'ici, je distinguais le rivage jusqu'au saule. L'arbre ancestral se dressait, immense, tout en nuances de vert et de brun. Au-delà, l'eau perdait son bleu sombre pour refléter la végétation dense. De hautes herbes bordaient le nord de la mare et mon regard suivit leurs traces le plus loin possible. Je plissais les yeux pour deviner le contour de nénuphars près du rivage opposé. La mare paraissait gigantesque. En volant en ligne droite, on aurait compté 200 battements de large et 500 en longueur pour atteindre l'autre côté. Mais notre territoire s'arrêtait au sol et franchir cette limite relevait de l'inconscience. Les corps de rive, le peuple qui vivait de l'autre côté de la frontière, ne nous l'aurait pas permis. Les pères nous avaient mis en garde à leur sujet de nombreuses fois dans nos bulles, presque autant que pour les migrateurs. J'inspirais profondément. Devant moi s'étendait le monde, notre monde. Vous avez bien repéré quelques petits détails, vous avez commencé à comprendre avec les unités de mesure et puis les prédateurs que ce sont des tout petits êtres. Fédéline, fée, en fait, c'est une façon, vous disiez à notre café littéraire hier, de revoir les fées en les animalisant quelque part, en nous faisant des petits êtres, des sortes de libellules confrontées aux gores de rive, ça ressemble beaucoup à des crapauds. Et quelque part, je le disais, ça va vous énerver à force, mais tant pis, je disais, je n'avais jamais lu depuis Les fourmis de Bernard Werber un auteur qui, là, non pas pour adultes, mais pour la jeunesse, soit capable de recréer un monde animalier, même si ça s'est déjà fait en littérature, on a quand même un long passé littéraire, et de nous amener à nous attacher autant à ces petites créatures. Et ça, c'est une vraie performance, Nadia Coste. Pourquoi vous avez eu envie, en écrivant votre première trilogie, votre premier roman, de vous recentrer sur un univers, finalement, dont les limites spatiales sont assez étroites ?
Oui, j'avais envie de cette animalité des fées. En fait, c'est venu de recherche au moment où je cherchais cette histoire. Je voulais travailler sur le destin, sur le fait que, voilà, souvent, il y avait des clichés en fantaisie où il y a un héros qui a un destin formidable au milieu de tout le monde qui n'en a pas. Et je voulais faire l'inverse, un peuple où tout le monde naît avec son destin, sauf une personne, pour se trouver quelle serait son histoire à lui. Et en faisant des recherches sur le destin, j'ai découvert que ça venait du latin, fatum, qui avait fait aussi le mot fée, mais plus au niveau des fées qui avaient un lien avec le destin des hommes. Et moi, je me suis dit, si finalement ce lien entre le destin et les fées était plus pour leur peuple, le peuple des fées, mais je ne voulais pas des petites fées mignonnes, fées clochettes, magiques, qui naissent dans des roses, vous êtes d'accord, mais hein, comment ces fées peuvent se reproduire, donc les mâles, les femelles, quelque chose de. Donc voilà, revenir à quelque chose d'animal au niveau des fées, pour travailler donc sur le destin et à une échelle réduite où c'est un peuple très fragile, parce que voilà, quand il y a une menace d'oiseaux migrateurs ou d'un peuple de barbares batraciens armés, voilà, tout d'un coup ça prend un enjeu incroyable à l'échelle d'une petite mare, et où le danger peut être au détour d'un arbre, voilà, une toile d'araignée ou quoi que ce soit devient tout d'un coup une aventure quand on a cette taille là donc pour moi c'était l'ouverture à pouvoir avoir donc une aventure et en tout cas des dangers ou des choses tout autour qui étaient intéressantes à utiliser pour ces héros-là, pour leur vie. Donc voilà, c'est parti là.
On va repasser, on approche de la fin de notre café littéraire, mais on ne va pas se quitter comme ça. On continue à quelques petits extraits, une ou deux questions. J'espère qu'on va vous donner envie de découvrir tous ces romans. Petit extrait très court, quelques lignes pour situer là aussi la partie de magie dans les romans de Marie Pavlenko. Todd était torse nu. Il me souriait, les sourcils relevés d'un air de dire « Je t'avais prévenu », la tête penchée sur le côté. Et une paire d'ailes grises argentées se déployait dans son dos. Elles étaient monumentales. Elles devaient mesurer au moins 4 mètres d'envergure. Elles étaient sublimes. Elles étaient époustouflantes. J'eus l'impression qu'on m'avait frappé en plein ventre. Des milliers d'étoiles brillantes dansèrent un moment devant mes yeux. Je restais immobile, muette. Todd était devant moi avec deux ailes immenses. Leurs plumes miroitaient sous la lumière du jour, deux ailes qui bougeaient, vivantes. Je ne cessais de me répéter les faits pour m'obliger à intégrer la nouvelle, mais l'opération se révélait complexe. Deux ailes, comment était-ce possible ? Je regardais les sapins autour de moi, le ciel des deux tout là-haut. Non, je ne rêvais pas. J'étais là, ici et maintenant, devant Todd. Todd et ses ailes. Là, c'est vraiment la magie. C'est l'univers réaliste contaminé par un univers magique. Et vous en dire plus sur
c'est la découverte en fait, c'est-à-dire c'est alors moi ce que j'ai fait, c'est rigolo, c'est un petit peu comme Nadia, c'est-à-dire essayer de réinventer quelque chose, de partir d'une base et de se le réapproprier. Donc c'était l'image des anges, mais je voulais pas que ce soit des anges parce que je voulais pas que ce soit lié à la religion et puis que ça avait été exploité moult et moult fois dans plein d'ouvrages. Donc j'ai pris ce modèle là. En n'en faisant pas des êtres immortels mais mortels et qui vivent parmi nous, si ça se trouve là il y a un Enkidar qui est caché, voilà, c'était l'idée de départ. Et donc l'héroïne en fait découvre que le monde qu'elle pensait être tel qu'il est, c'est un mensonge, c'est un leurre, et qu'il y a d'autres êtres à côté d'elle, et que pire que ça, elle en fait partie. Donc c'est vraiment la découverte de soi, de qui on est, d'où on vient, un gros pan du livre aussi sur les origines, qu'est-ce qui fait qu'on est la personne qu'on est, est-ce que notre naissance nous détermine, la maternité, enfin bon voilà, il y a beaucoup de thèmes abordés là-dedans, et le fait de se confronter à d'autres créatures, c'était le moyen de les développer.
On revient à la science-fiction, parce que vous avez remarqué quand même qu'autour de cette table, essentiellement des auteurs de fantasy, quelle que soit la forme de fantasy. Mais bon, peu importe les genres quand on aime les romans. Système stellaire mineur de la périphérie, la veille de l'expiration de l'ultimatum. Naïs reprit conscience 6 minutes après le saut space. Elle demeura allongée sur la couche de sa cabine, suivant le conseil du commandant du vaisseau. La sensation d'engourdissement s'estompa peu à peu pour laisser la place à une légère migraine. La régente de Corolle ne s'était jamais habituée aux effets secondaires des sauts space, malgré la fréquence de ses voyages officiels. Les meilleurs pilotes ne restent évanouis que quelques secondes, songea-t-elle. Un coup sourd sur sa porte la fit tressaillir. Elle s'éclaircit la voix et ordonna « Entrez !» Le visage inquiet du commandant du vaisseau, une femme d'âge mûr au visage ciselé dans la pierre, apparut sur le seuil. « Je venais prendre de vos nouvelles, Majesté. Le saut n'a pas provoqué de complications particulières. Rien en dehors des désagréments habituels, la rassura la régente. « Je vais appeler le médic pour qu'il vous apporte un calmant. Laissez, interrompit Naïs. La douleur disparaîtra d'elle-même d'ici quelques minutes. Nous avons atteint notre destination, suivant les coordonnées que vous aviez indiquées. » poursuivit le commandant. Comme vous nous l'aviez annoncé, nous sommes au milieu d'un système stellaire et la 5e planète est habitée. Son cerveau brise de questions qu'elle ne peut poser, pensa Naïs. Comment ai-je obtenu ces coordonnées? Pourquoi nous aventurons-nous dans les mondes périphériques alors que nous ne possédons même pas de carte approximative? Qui nous invite ici? Voilà, un des mystères qui va s'éclaircir dans Loire, roman d'aventure, roman de passion, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on a vu au départ, on est dans une salle de l'une des planètes, on est avec un des personnages principaux, Emerald, on est avec ses conseillers, et au fur et à mesure, différents lieux, différents moments, mais c'est quand même sur une semaine, les choses se déroulent très vite en fait, tout l'univers en fait va apparaître, pas seulement la planète de départ, mais l'ensemble d'un système, ses complexités, son fonctionnement, et au fur et à mesure du roman, c'est tout un univers, mais évidemment on ne s'y ennuie pas une seconde, puisqu'il y a de plus en plus d'événements et de rebondissements, on découvre en fait tous les mondes que vous avez imaginés, avec des façons différentes de résoudre les problèmes, par ici la génétique, par ici le saut spatial, par ici, etc.
C'est vrai qu'il y a un petit côté zoom arrière, en fait, c'est-à-dire qu'au départ, on a le début du roman où on est tout de suite dans le conflit, en fait, dans l'ultimatum, dans le conflit, avec les deux familles de protagonistes principaux, avec un troisième protagoniste qui arrive assez rapidement, qui est un protagoniste religieux, qui est neutre sur le papier, mais en fait pas si neutre que ça. Et en fait, au fil de l'eau, sur le premier tiers du roman, il y a ce zoom arrière qui fait qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres forces en présence, et que cet aspect conflit, en fait, engendre d'autres thèmes, considérations de type politique, religion, génétique, et ainsi de suite. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de dire, ok, l'attention est portée à un endroit, mais attention, si vous regardez à cet endroit-là, peut-être que vous allez négliger sur les autres côtés quelque chose qui est finalement beaucoup plus englobant, beaucoup plus important pour le cœur de l'histoire.
Un dernier détour, parce que sinon je vais faire bousculer par le prochain modérateur qui va me reprocher de dépasser l'horaire, chose qu'évidemment j'insiste auprès de tous les autres modérateurs qu'ils ne le fassent pas, alors on va essayer d'aller vite. Les paroles montaient assourdies mais nettes de la cuisine. Leurs parents avaient oublié les règles de se parler en mode silencieux pour les questions graves. Ton café, infect, je suis à bout, c'est toi qui, toute seule, mariée avec ton bureau. Tu crois qu'ils vont divorcer? Chuchota la Emilia avec intérêt. C'est pas, ils disent toujours qu'on ne doit pas se séparer. Ma copine Lee, elle a deux familles, avec celle de son père et celle de sa mère. Celle fait 3 demi-frères, demi-sœurs, en plus de sa sœur, et au total 6 grands-parents, car un est déjà mort et l'autre est parti. Chut, écoute ce que dit papy. Ils se glissèrent de marche en marche, en veillant à ne pas réveiller l'escalier. Nous avons été localisés. C'est une question de jour. Alors, elle existe vraiment, la guilde de Noir? Chuchota-t-elle. C'est quoi au juste? J'en sais trop rien. Ils en parlent entre eux, des sorciers. Ouah, comme à Halloween. Non, des sorciers authentiques. Ou des humains normaux qui veulent plus de pouvoir. Des magiciens aussi. Comme de grands? Oui, des magiciens qui se sont transformés. Par exemple, nous ne devons pas tuer. Sinon, cela nous arrivera. Oh, c'est génial, gothique. Je crois que tu ne mesures pas bien. Tu ne devrais pas plaisanter avec ça si maman t'entendait. Voilà. Voilà. On est au milieu de ces univers, on sent des choses inquiétantes, la magie et tout, et puis c'est une discussion d'ados comme les autres.
Alors, en fait, ces deux ados qui ont, on parlait de l'âge tout à l'heure, c'est des, comme ils sont deux, qui sont plus vieux que l'aspect qu'ils donnent, et ces deux enfants, une fille de 11 ans et un garçon de 16 ans, qui refusent totalement la magie, parce que ça les empêche complètement de vivre leur vie avec leurs potes. Il y en a une qui rêve qu'une chose, c'est partir en vacances avec ses copines et s'acheter son premier string. Et l'autre, de monter son groupe de rock. Et ils sont plus âgés que l'image qu'ils donnent, donc ils n'ont pas du tout envie de traîner avec des gamins qui ont le même aspect. Et en plus, être magicien, ce n'est que de la contrainte. Ils n'ont pas envie de différence. À cet âge-là, la différence, c'est l'enfer. On a envie d'être comme les autres, même s'ils ne s'aperçoivent pas que c'est la richesse, la différence. Eux, ils ont besoin de se fondre dans la masse. Et du coup, évidemment, c'est un conflit incroyable avec les parents qui, eux, ont un poids énorme sur leurs épaules.
On en parlerait beaucoup plus longuement, mais vous connaissez la règle du jeu, 50 minutes. Après, il faut laisser la place au suivant. Et puis les auteurs vont aussi sur la boule du livre pour vous y attendre, dédicacer leurs ouvrages et puis trouver d'autres lecteurs. Les Dolls, premier volume, La route des magiciens, tome 1, fantaisie urbaine, vous avez vu tout à l'heure avec ces extraits un petit peu le ton. Grand prix de l'imaginaire 2012. Emmanuel Nunc, littérature qui peut plaire aux adultes, mais vraiment emballer les jeunes et les enfants. J'insiste, à partir de 14 ans, mais bien plus jeune que ça. Bien plus jeune. Non, faut pas écouter l'éditeur. Dès 11-12 ans, vous pouvez leur donner, ça va leur plaire. Emmanuel Nunc, Bord de Marge, Castelmore. Le livre de Saskia, Le Réveil, et le suivant est déjà là, de Marie Pavlenko. Fédéline, de Nadia Coste, premier volume, mais les deux autres sont déjà là.
Il reste le quatrième en octobre.
Exactement. On a le temps de lire les trois premiers pendant l'été, voilà, c'est parfait. Et puis, Loar, Griffe d'encre, Loïc Henry, Space Opéra de science-fiction, ça vaut les Américains, c'est vraiment très bien. Bonne lecture, bonnes imaginales, et à bientôt.
Merci. Merci à vous. Et merci en gros à vous deux pour cette. Mais c'était sympa. Donc. En fait, il faut l'agresser.